Radio kiosque.
Lecture subversive une fois par mois. Radio kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Saint-Afrique.
Garantie sans propagande.
Rojava et Chiapas, deux lueurs d'émancipation dans un monde halluciné. Pierre Bance, 12 mars 2017. Dans le cadre de la semaine anticoloniale et antiraciste, s'est tenu à Paris, le 11 mars 2017, un débat sur les expériences comparées des apatistes et des Kurdes, principalement le Rojava, à l'initiative du collectif Sortir du colonialisme. Le texte que je vais lire n'en est pas le compte-rendu, mais la mise en forme des notes préparatoires de l'auteur qui s'est aidé des travaux sur le Chiapas d'un autre intervenant, Jérôme Bachet. De cette comparaison, il ressort que si les apatistes du Chiapas se sont résolument inscrits dans un projet de démocratie directe, au Rojava, le processus est plus compliqué. Semble se dessiner un type de démocratie participative au risque de contrarier l'ambition de construire une société sans État.
Même combat, Zapata, et ce qui se passe en ce moment au Chiapas.
C'est exactement la révolution zapatiste de 1910-1919 a été une révolution conservatrice. Dans le sens que ce que les zapatistes demandaient, Emiliano Zapata, c'était le retour des terres et que leur avait donné le roi d'Espagne. Il voulait restaurer une Arcadie rurale, éloignée du monde moderne, autosuffisant, et ils ont réussi à le faire pendant une Annus Mirabilis, qui était l'année 1915, entre les forces de Huerta et les forces de Carranza. Ils ont arrivé à le faire, restaurer la production, etc. Je crois que les gens du Chiapas veulent la justice sociale, ils veulent une économie à eux, ils veulent la démocratie, ils veulent de meilleurs niveaux de vie, ils ne refusent pas la modernité, mais ils veulent une modernité qui soit à leur image. J'ai entendu parler les chefs des villages chiapanecos en face du président Salinas. Écoutez, ces gens-là parlaient avec une dignité, avec un langage, une possession de leur langage, de leurs idées. Ils n'avaient pas besoin du parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir. Ils avaient leur culture politique, ils avaient leur culture tout court. Ils savent se gouverner. Ils ont une culture, ils ont une dignité, ils ont un langage. C'est ça qu'ils opposent pour dire, écoute, il ne s'agit pas de continuer la révolution d'Emiliano Zapata, de copier les modes de production ou de vie de la ville de Mexico, du Mexique urbain. Il s'agit de nous laisser nous gouverner.
Ils veulent être eux-mêmes.
Nous-mêmes, être nous-mêmes.
C'est peut-être ça la révolution, Régis Debray.
Non, il y a énormément à dire sur ce mouvement, mais d'abord, pour répondre à votre question, Laure Adler, je suis un peu maniaque des analogies, mais Zapata, il se soulève contre quoi? Je veux dire, en 1911, il se soulève contre les scientificos, c'est-à-dire contre une dictature qui se veut libérale, moderniste, futuriste, qui est inspirée du positivisme. Et je crois qu'au fond, les scientificos, aujourd'hui, c'est les Golden Boys. Les technocrates ont pris la place des positivistes, mais, et je dirais d'ailleurs que, enfin là c'est peut-être des considérations historiques, mais que le président de l'époque, Salinas, avait aussi bonne réputation internationale que Porfirio Diaz. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il était vécu comme un modernisateur, comme
un libéral.
Un libéral, etc. Donc c'est vrai ce que Carlos dit, c'est que la révolution zapatiste ou le soulèvement zapatiste est conservateur, mais on peut le dire anachronique, mais moi je pense que la postmodernité sera archaïque ou ne sera pas, car le vrai problème, c'est évidemment les identités collectives. Et c'est vrai qu'il y a tout un aspect.
Ça veut dire quoi, ça, la postmodernité?
La postmodernité sera archaïque ou ne sera pas, c'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, au Mexique, un futurisme de pacotille dans lequel les élites baignaient. Autrement dit, le Mexique se
devenir
croyait...
Devenir comme les Occidentaux
disons, le Mexique, le 31 décembre, s'est endormi à Manhattan et se réveille tout d'un coup à San Cristobal ou au Guatemala. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le refoulé, n'est-ce pas, de la mémoire, tout le refoulé indigène, tout le refoulé de la question agraire, tout d'un coup, lui explose au nez à travers le soulèvement zapatiste. Et Carlos parlait d'une révolution mondiale. Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Il me semble que le problème, on peut dire, mondial aujourd'hui, c'est cette sorte de clivage d'opposition qu'il y a entre une élite internationale qui vit, disons, à l'heure américaine, qui vit dans la vidéosphère, qui vit dans la télévision, qui vit dans l'économie, qui vit dans la bourse ou dans l'ordinateur. Et puis il y a les exclus, il y a les archaïques, il y a les traditionnels, il y a les paysans. C'est-à-dire, cette coupure, elle existe en Inde. Elle existe peut-être même en France. Elle existe au Brésil. Elle existe un peu partout. Et c'est au Mexique où elle a pris, je crois, sa forme la plus emblématique avec ce soulèvement du Chiapas, qui est même un soulèvement à la fois progressiste et conservateur. Donc c'est la lutte armée qui a fait le moins de morts jusqu'à présent et qui a eu le plus d'effets politiques et mentaux, n'est-ce pas? Il me semble que
Grâce aussi à Salinas, qui a accepté le dialogue.
Ce qu'il faut dire tout de suite, n'est-ce pas, c'est en quoi
c'est la différence avec Porfirio Díaz.
C'est en quoi le Mexique me semble tout de même pionnier dans cette affaire, c'est que le soulèvement du Chiapas n'est pas indigéniste et réactionnaire comme l'a été au Pérou le sentier lumineux. Nous avons affaire à des enracinés universalistes, nous avons affaire, je dirais, à des mayas électroniques, nous avons affaire à des indigènes branchés sur Internet. C'est-à-dire, il y a quelque chose de tout à fait sidérant, qui est à la fois une grande modernité dans les références culturelles, on le voit dans les textes de Marcos qui jonglent avec le cinéma, Cortázar, Fuentes, Joyce, enfin, qui jonglent avec la culture proprement cosmopolite et mondiale, très au courant de ce qui se passe aux États-Unis, très au courant de ce qui se passe dans le monde développé, et qui néanmoins assume toute la mémoire enfouie, n'est-ce pas, d'un peuple brimé. Et là, je trouve que ce tête-à-queue, ce court-circuit, n'est-ce pas, entre ce qu'il y a de plus moderne et de plus ancien, me semble quelque chose de très séduisant. Et j'ajoute que l'intrusion de l'humour dans la Révolution est quelque chose...
Car le sous-commandant Marcos est très drôle.
Est quelque chose qui, à mon sens, bouleverse tout à l'heure. Quand on lit les textes de Marcos, on ne peut plus ensuite, nous, écouter nos discours politiques ici, en France. C'est plus possible. C'est plus possible.
Le plein d'humour. Mais je pense que tu touches à l'essentiel, une fois de plus, Régis. Et c'est comment faire le pont entre ce village global et le village local, sans que le village local tombe dans le nationalisme, le tribalisme, la xénophobie, l'ethnic cleansing, et sans que le village global tombe, comme il a déjà tombé, dans une espèce d'anarchie financière, où il y a $1 trillion qui bouge chaque jour grâce aux ordinateurs, personne ne le contrôle, ils font ce qu'ils veulent, une yuppie de 28 ans peut faire crack le plus ancien banque de l'Angleterre à partir de son ordinateur à Singapour. Il y a une anarchie totale dans la vie économique mondiale, avec des propos absolument spéculatifs et non productifs, qui est en train de réduire à la misère les travailleurs, et les nations, et les sociétés. Ça, c'est très, très grave. Et dès qu'il n'y aura pas cette ponte entre les deux villages, on va vers une catastrophe certaine.
Alors, on va voir, si vous le voulez bien, un document, toujours extrait du film de Tessa Brézac et de Carmen Castillo. Mmh. Vous vous souvenez du 1er janvier 1994, vous étiez au Mexique, Carlos
Fuentes. J'étais au Mexique, oui.
Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Quel effet ça a fait, la prise de pouvoir symbolique?
On s'attendait simplement le 1er janvier 1994 à l'entrée en vigueur du traité de libre commerce de l'Amérique du Nord. Et soudainement, à côté de cet événement, on avait un soulèvement zapatiste au Chiapas.
Alors on va voir justement ce document.
On croyait qu'on était au premier monde, on s'est levé, on était toujours dans le tiers monde.
Donc l'autonomie, au sens révolutionnaire, est la volonté et la capacité d'une communauté de s'organiser et de s'autogouverner sur un territoire restreint, la commune, qui, fédérée à d'autres communes, forme la commune des communes. Cette idée, ancienne, de supprimer la séparation entre gouvernants et gouvernés, de s'éloigner de tout pouvoir autoritaire étatique, patriarcal ou autre, traverse l'épopée zapatiste comme la dynamique kurde. Les Indiens du Mexique, comme les Kurdes de Turquie et de Syrie, ont conscience qu'ils ne luttent pas seulement pour leur émancipation, mais pour celle de tous les peuples de l'humanité. Aussi, ne nous demandent-ils pas de sanctifier leurs actions et réalisations, mais de profiter de leur expérience pour construire notre propre autonomie à partir de notre histoire et du contexte dans lequel nous vivons.
Ciudad de México. Llegamos. Aquí estamos.
Aperçu géopolitique. Avant que l'autonomie ne devienne la finalité politique, c'est une lutte de libération nationale qu'entreprirent les deux peuples pour sortir de leur statut colonial. Ils la commencèrent sous la bannière du marxisme-léninisme. Sous l'impulsion de leurs leaders, le sous-commandant Marcos et Abdullah Ocalan, qui ne faisaient qu'exprimer un questionnement profond, se révélèrent l'impasse de la construction d'un État-nation comme la dangerosité du marxisme-léninisme pour édifier une société émancipée. En Amérique centrale et en Mésopotamie se mirent en route à l'orée du siècle deux mouvements d'émancipation par le communalisme sur un territoire à peu près égal à celui de la Belgique, mais avec une population plus importante au Rojava, 4 millions d'habitants, qu'au Chiapas, quelques centaines de milliers. Dans les deux cas, l'environnement est hostile. Au Chiapas, la guerre fut courte. La résistance perdure néanmoins pour se prémunir des provocations, menaces et interventions du gouvernement national ou régional et des capitalistes. Aussi, de la confrontation avec des organisations paysannes rivales. Au Rojava, la guerre est totale. Contre les djihadistes, le régime de Bachar al-Assad, les opposants à ce régime et pour finir, les envahisseurs turcs. Également contre une opposition interne soutenue par le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak, allié des Turcs. L'un et l'autre sont pauvres. Encore, le Rojava a-t-il des ressources pétrolières et agricoles potentielles dont l'exploitation locale a été rendue difficile par le colonisateur syrien. Par contre, les deux territoires ont une sociologie différente. Le Chiapas présente une identité ethnique, les Indiens, et religieuse, la chrétienté. Le Rojava est une mosaïque de peuples, kurdes, arabes, chaldéens, syriaques, turkmènes, arméniens, caucasiens, et de religions, musulmans et chrétiens de diverses obédiences. Le premier acte des révolutionnaires kurdes sera de proclamer l'égalité de tous les peuples et de toutes les religions, en précisant pour ces dernières qu'elles appartiennent au domaine privé.
Bye.
Institution de l'autonomie. Le Chiapas ne se revendique pas d'une idéologie déterminée. Il construit son système politique en avançant sur le chemin de l'autonomie. Le Rojava, lui, se réfère directement au confédéralisme démocratique pensé par Abdullah Öcalan, lui-même inspiré par le municipalisme libertaire du philosophe américain Murray Bookchin, père de l'écologie sociale. L'autonomie a-t-elle besoin d'une constitution et de lois ? C'est toute la question du droit en anarchie qui conduit à rechercher des normes non étatiques de gouvernement, c'est-à-dire des normes d'autogouvernement et, pour mieux dire encore, d'autogestion politique et économique.
Ciudad de México. Llegamos. Aquí estamos.
Si l'organisation de la société civile fondée sur la commune présente la même structuration au Chiapas qu'au Rojava, dans ce dernier pays subsiste un proto-État. Le Chiapas est divisé en 5 zones autonomes et 27 communes. Le Rojava en 3 cantons autonomes et une vingtaine de municipalités, dont 12 au Jazira, le plus grand des cantons. Au Chiapas, à la base, est la communauté ou village organisée avec une assemblée communautaire et des agents communautaires. Les communautés se fédèrent en communes avec un conseil municipal formé de délégués élus pour 2 ou 3 ans. Les communes autonomes envoient des représentants à l'Assemblée générale de zone, laquelle désigne un conseil de bon gouvernement chargé de la coordination de la mise en œuvre des décisions collectives relatives à la gestion des ressources, l'éducation, la santé, la justice, etc. Au niveau de la zone, les mandats sont de courte durée, la rotation des charges assurant la liaison permanente avec les communes. Un va-et-vient constant s'établit entre le Conseil de bon gouvernement, l'Assemblée générale de zone et les communautés et communes avant toute décision. Le processus de ratification peut prendre du temps. En l'absence de consensus, la décision est mise au vote, la position minoritaire n'étant pas écartée mais conservée pour éventuellement compléter ou remplacer le choix majoritaire qui se révélerait inadéquat. Tous les délégués doivent strictement respecter leur mandat et consulter la base s'ils ne s'estiment pas mandatés sur la question soulevée. Ils sont révocables et non rémunérés. Ainsi, peut-on parler d'une société sans État, d'une démocratie directe, où le législatif et l'exécutif sont fondus dans les assemblées générales des autonomies et dans le conseil de bon gouvernement, qui n'est justement pas un gouvernement. Sans constitution ni corpus de loi, mais plutôt avec un droit coutumier en perpétuelle élaboration, les apatistes recherchent la meilleure manière de faire fonctionner l'autonomie.
Acabar la explotación. Muchas gracias.
Au Rojava, les communes autonomes qui correspondent aux communautés du Chiapas se fédèrent en districts puis en municipalités. Ces dernières sont l'équivalent des communes du Chiapas. Par exemple, la municipalité de la grande ville du Jazira, Camislo, est composée de 6 districts et 108 communes. Au niveau municipal est formé un conseil populaire composé de présidents et coprésidents des districts et des conseillers élus qui sont en majorité. Cette organisation en 3 niveaux est empruntée au projet du mouvement de la société démocratique TEFDEM, lequel assure aujourd'hui les services publics de la santé, de l'éducation, des transports, etc. Comme au Chiapas, on retrouve des modalités de mandatement avec rotation des tâches, mandat précis, révocation instantanée. De toutes les assemblées générales, tous les conseils et comités, toutes les délégations, l'égalité entre les hommes et les femmes est assurée, alors qu'au Chiapas, les acteurs de l'autonomie ont conscience que la place des femmes est insuffisante dans les processus de décision et les modes de représentation. Parallèlement à l'autonomie communale, existe une structure proto-étatique contenue dans une constitution, d'un type particulier appelée charte du contrat social du Rojava. L'organisation, mise en place dans chacun des cantons, est directement inspirée de la démocratie des Lumières, avec la séparation des 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, préconisée par Montesquieu. Le nom même de contrat social est une référence à Jean-Jacques Rousseau. Chaque canton du Rojava possède donc un conseil législatif qui fait les lois. Il est en principe élu au suffrage universel, mais à cause de la guerre, les députés dans les cantons de Jazira et de Kobané sont actuellement désignés par les organisations de la société civile de manière à respecter la représentation de toutes les tendances politiques, ethniques et religieuses et l'équilibre homme-femme. Le TEFDEM ayant sa propre représentation, mais minoritaire, un conseil exécutif et un gouverneur chargé de faire appliquer les lois, une justice indépendante du législatif et de l'exécutif. On ajoutera à cela une Cour suprême constitutionnelle pour veiller au respect de la charte et un conseil judiciaire pour garantir l'indépendance de la justice. Cette survivance d'un législatif et d'un exécutif est en contradiction avec l'idée d'autonomie. Il ne suffit pas de renommer le système auto-administration démocratique parce que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne feraient qu'exécuter les décisions venues d'en bas pour qu'il en soit ainsi dans les faits. D'ailleurs, quel gouvernement n'avance-t-il pas dans la souveraineté du peuple pour justifier son pouvoir ?
C'est la première fois qu'on applique dans le Kurdistan, c'est-à-dire pour la première fois. D'abord, c'était avant, c'était plutôt théorique. Et maintenant, de venir, de pratiquer, à l'appliquer sur le terrain, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais nous, on est en train de vivre avec les autres minorités, soit les Assyriennes ou les Arabes, comme des frères. On n'a aucun problème.
C'est un nouveau modèle de société, c'est un nouveau projet. Le confédéralisme démocratique, c'est un esprit, c'est un système dont l'esprit est fondamental est de regrouper justement les différentes ethnicités qui vivent sur le territoire, sur le Kurdistan. Donc on ne parle pas des Kurdes, mais on parle des ethnicités du Kurdistan, des peuples du Kurdistan et non pas des Kurdes.
Cette mère Februnie Akyol, co-mère syriaque, première femme syriaque élue en Turquie, elle a été élue... mais pour s'occuper de toute la population de Mardine.
Après la révolution algérienne, on a renvoyé les femmes résistantes au foyer et on leur a réimposé le poids traditionnel. Je ne pense pas que ce soit possible au Kurdistan parce que la place des femmes est tellement plus importante, elles ont conquis tellement plus de place qu'il ne sera pas possible de les renvoyer au foyer.
Le mouvement des femmes kurdes ou des femmes qui résistent actuellement sur tous les fronts, c'est le cœur du nouveau projet de société.
Quand on a profondément goûté à la liberté, ça reste dans les mémoires. Si quelque part il y a la guerre et que les forces progressistes reculent, tout le monde trinque. Et inversement, quand on arrache la victoire à Kobané, ça, c'est un élan extraordinaire au plan mondial.
Quand
Geçiyor hortenşor eşvan
Geçiyor hortenşor eşvan
Natırsış kuçken hovan Hem der hine jaha kalan Biji biji ro java
Şiboy te canime feda
Perişin düşmün bun bala
Kurno mala ve ava
Keçu horten kahraman
Şerdikim bu Kürdistan
Şubok zarok bıkın jiyan
Hazırın bebin paklevan
Kamışlo afrin kobane Amude derik hesake Türbes bir serikaniye
Büjirojavayı Kürdistan'ı
Geçiyor hortenşor eşvan
De pare zirniştiman
Natırsış kuçken hovan
Hem der hine jaha kalan
Biji biji rojava
Şiboy te canime feda
Erişin düşmün bun bala
Kurno mala ve ava
Keçu horten kahraman
Şerdikin bu Kürdistan
Jibok zarok bekin jiyan
Hazırın bebin pakrevan
Kamışlo afrin kobane
Amude derik hesake
Türbes bir serikaniye
Büjirojavayı Kürdistan'ı
Büjirojavayı Kürdistan'ı